France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Le stoïcisme, un idéal de maîtrise, point d'interrogation. C'est notre série cette semaine et ce matin, nous pourrons peut-être enlever le point d'interrogation. Tant Épictète, dont nous allons parler, a précisé les voies du contrôle de soi. Après Sénèque, dont nous parlions hier, né quelques années avant notre ère et avant Marc Aurèle, l'empereur romain qui a vécu au IIe siècle de notre ère, philosophe aussi et que nous évoquerons demain, nous nous intéressons aujourd'hui au philosophe Épictète, figure majeure de la pensée stoïcienne, né autour de l'an 50 de notre ère et mort autour de l'année 130-135. Je crois que tout cela n'est pas certain. Épictète n'a rien écrit, mais l'un de ses disciples a retranscrit tout à la fois des entretiens de 4 volumes et un manuel témoignant très précisément de sa pensée et de ses enseignements. Épictète a été dans sa vie un esclave, nous ne savons pas si c'était de naissance. Il est né en Asie mineure, puis s'est rendu à Rome avec son maître, et là, Épictète a été affranchi, je demanderai des précisions à mes invités sur ce point, et a suivi les cours d'un philosophe stoïcien nommé Musonius Rufus. Ensuite, banni de Rome comme tous les philosophes par l'empereur Domitien, Épictète s'est installé à Nicopolis, aujourd'hui située au nord-ouest de la Grèce, pour dispenser ses leçons et déployer sa pensée. Philosophiquement, l'apport majeur d'Épictète à la pensée stoïcienne est son insistance sur notre capacité à avoir des représentations tout à fait claires, du bien et du mal notamment, et sur notre capacité à choisir ce qui correspond au bien. Force d'âme, si j'ose dire, de l'être humain. Épictète explique cela en introduisant aussi un point majeur qui n'existait pas avant lui aussi clairement dans le stoïcisme, la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Bonjour Sandrine Alexandre.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes docteur en philosophie et puis comme agrégée de philo, vous enseignez en terminale, en ce moment au lycée Ionesco à Issy-les-Moulineaux. Vous êtes une spécialiste de philosophie ancienne et notamment du stoïcisme, romain. Bonjour Jean-Baptiste Gourina.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à Sorbonne Université. Le stoïcisme est votre grand objet de recherche depuis longtemps. Vos travaux sont précisés sur notre site, tout comme ceux de Sandrine Alexandre, bien sûr. Et quant à vous, Jean-Baptiste Gourina, vous avez notamment traduit du grec ancien le manuel d'Épictète. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce manuel? Qui était ce Arien, A-2-R-I-E-N, disciple d'Épictète qui aurait tout pris en note? Est-ce qu'il n'a pas mis un peu des choses plus personnelles? Que sait-on en ce moment des textes, enfin, écrits non pas par Épictète, mais qu'on juge reflétant sa pensée?
Reflétant sa pensée, oui, effectivement. Alors, en fait, ces textes sont censés être les notes prises au cours d'Épictète par Arien. Alors, Arien fait partie, en fait, c'est un membre de l'aristocratie qui, d'ailleurs, aura une brillante carrière politique. Et quand il était jeune, donc il va à Nicopolis suivre les cours d'Épictète. Et, en fait, il a, parmi ses vocations, il a l'idée d'être le nouveau Xénophon. Xénophon, le disciple de Socrate, qui a écrit notamment les Mémorables, mais qui a aussi écrit toutes les histoires de la guerre, notamment les guerres avec les Perses, puisque Xénophon était un général aussi. Et donc il a l'ambition d'être le nouveau Xénophon en retranscrivant les cours du nouveau Socrate, c'est-à-dire d'Épictète, et aussi en écrivant la suite de l'histoire de Xénophon.
Il était historien aussi.
Il était historien, oui, c'est un...
Et donc politique, il était écrivain. Et historien.
Il faisait tout, oui, exactement.
Proche de l'empereur Adrien, à un moment donné.
Forcément, pour avoir un rôle politique comme celui-là. Mais donc, il a toujours gardé de sa jeunesse cette affection et surtout cette ambition d'être le disciple d'Épictète. Et c'est assez difficile de savoir justement jusqu'à quel point... Bon, alors les entretiens, c'est censé être pris sur le vif, vraiment, les notes qu'il prend au cours. Tandis que le manuel, là, c'est vraiment composé, c'est un digeste, en fait, de tout ce qu'il a pris en note. Et évidemment, on a beaucoup de difficultés à savoir quelle est la part de réécriture. Bon, dans le manuel, c'est évident. Dans les entretiens, c'est beaucoup moins évident. Il y a même une préface où il dit, bon, en fait, on a fait des copies pirates. Moi, c'était pas destiné à la publication, donc puisqu'on l'a publié malgré moi, moi je publie ma version officielle, c'est difficile, vraiment difficile de savoir. Bon, c'est vrai qu'on connaissait la sténographie, donc il a tout à fait pu prendre en note rapidement les cours d'Épictète, mais il y a quand même manifestement une partie d'écriture. Et il faut dire aussi, alors que apparemment, ce que nous avons conservé en 4 livres, c'est la moitié de ce qu'il a écrit, puisqu'il y aurait eu 8 livres en tout des entretiens. Donc on aurait garder que la moitié.
Restons un moment sur ses écrits, puis je vous interrogerai encore l'un et l'autre sur sa vie, parce que c'est quand même un esclave affranchi. J'aimerais bien savoir où l'historiographie en est sur cette question. Mais concernant le manuel et les entretiens, ils n'ont pas le même statut, Sandrine Alexandre. On dit souvent que le manuel sont vraiment des exercices au quotidien pour devenir plus sage. C'est presque de l'autosuggestion. Les entretiens sont-ils plus, des pensées plus libres, plus déployées? Est-ce que vous faites vraiment une différence entre ces registres d'écriture?
Peut-être pas entre les registres d'écriture, mais comme l'a dit Jean-Baptiste, effectivement, le manuel, c'est un condensé. Mmh. Et son nom, son titre, en fait, on traduit en français manuel, mais le mot grec, c'était enkeiridion, c'est-à-dire à la fois ce qu'on a sous la main. Oui. Donc, une sorte de viatique pour
ça veut dire textuellement ça, ce qu'on a sous la main.
Oui. Et c'est aussi le nom d'un petit poignard.
Ah bon?
Qu'on a apporté de main pour se défendre. Et là, il s'agit de se défendre des représentations erronées que nous pourrions nous-mêmes former, que tout le monde forme tout le temps et dont il s'agit de se défendre.
Donc c'est encore plus pratique et concret que le mot même français de manuel. Ça va encore plus loin.
Manuel, c'est aussi...
il y a la main. Mais je veux dire, il y a vraiment l'idée que c'est... Bon, chez les Grecs, avant, certains philosophes considéraient que la philosophie, avec ses préceptes, par exemple les épicuriens, c'était un pharmakos, une petite boîte à pharmacie qui permet, avec des propositions claires, de lutter contre des pensées qui nous font du mal. C'est un peu cette idée, le manuel d'Épictète aussi?
Oui, tout à fait. Et on a même dans certains textes d'Épictète lui-même la comparaison de l'école de philosophie à un iatrion, une école, une médecine, en fait, un cabinet de médecins. Mm-hmm. Donc oui, il y a vraiment cette double idée de se soigner, de se défendre de soi-même, en réalité.
Et que sait-on alors de la manière dont il faisait cours, si j'ose dire, qu'est-ce que ça raconte?
On ne sait pas énormément de choses, mais vous soulignez la différence entre les deux types de textes. Et effectivement, dans les entretiens, on considère que ce sont les discussions qui ont lieu après la leçon qui aurait été donnée sur tel ou tel stoïcien précédent, Crésippe par exemple, ou sur tel ou tel point du stoïcisme, de la doctrine. Donc là, ce qu'on a dans les entretiens, justement, ce seraient les conversations que le maître aurait eues avec tel ou tel élève à la suite de l'exposé ou de l'exercice.
Oui, il y a un exposé d'abord. C'est une méthode d'enseignement.
Non, on n'a pas ça.
Jean-Baptiste. Vraiment,
oui,
on n'a pas
alors,
tout.
Cet exposé, on ne l'a pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une première partie du cours qui est manifestement soit on traite une question, soit on commente un texte. Et souvent, en fait, il le fait faire par l'élève. C'est-à-dire que l'élève vient et il lui a donné un sujet à traiter ou il lui a donné un texte à commenter. Donc, l'élève commente le texte ou traite le sujet. Et après, Épictète fait ce qu'on appelle maintenant la reprise du cours, et donc il fait la discussion. Et alors parfois, mais il y a des variantes, parce que parfois on voit que c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la partie qui suit la discussion d'une question ou l'explication d'un texte, et parfois c'est simplement un auditeur qui est venu, qui veut poser une question à Épictète, et donc Épictète répond aux questions.
Il soumet un problème, quoi.
Oui, parce que
vous auriez un exemple, par exemple.
Il faut savoir, c'est que Nicopolis, c'est la ville où c'est le port pour aller de Grèce à Rome et de Rome en Grèce. Et donc, c'est vraiment un carrefour et c'est assez stratégique qui s'est mis là. Et donc, en fait, comme c'est une espèce de star, de gourou Épictète, tout le monde va écouter. Vous êtes là, vous attendez votre bateau et donc vous allez écouter Épictète et vous allez lui poser des questions. Et on a aussi des cas où on voit les gens qui viennent lui demander des conseils. Alors, je vais à Rome parce que j'ai un procès. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais à Rome, j'ai rendez-vous avec... Je dois aller à la cour. Qu'est-ce que je dois faire?
Et des conseils aussi pour la vie personnelle.
Et des conseils pour la vie, exactement. Des conseils pour la vie personnelle. Et donc, il y a tout ça. Et donc, les entretiens, ça mêle les deux. C'est-à-dire, ça mêle les discussions. On voit qu'il y a des discussions assez techniques, en fait, qui sont un peu menées là, sur les représentations, par exemple, ou des choses comme ça, ou sur la providence. Mais il y a aussi des conseils beaucoup plus techniques sur qu'est-ce que je dois faire. Et alors, généralement, Épictète n'y va pas de main morte. C'est-à-dire, par exemple, tu vas à la cour, ben, il ne faut pas aller... on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il ne faut pas aller faire le courtisan, quoi. C'est pas,
Quand vous disiez la cour, j'ai cru que vous parliez d'une cour de justice.
Il y a les deux.
Et donc, souvent, le rapport au pouvoir, nous avons vu dans les premiers épisodes de cette série que c'est quand même très important, la vie civique, pour les stoïciens. Une grande différence avec les épicuriens. Il faut s'impliquer. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, disait Sénèque. Donc, oui à la vie civique, mais Épictète est méfiant quand même et met en garde contre les aspects vicieux de cette vie civique et politique.
Bah, et met un peu en garde contre le pouvoir et contre le pouvoir impérial notamment. C'est pas, il fait pas partie des stoïciens pro impériaux. Après, on a évidemment le summum qui est Marc Aurèle.
Et puis,
mais déjà on a non
personne ne la regrette. C'est ça que vous dites.
Non.
T'entends les philosophes
personne la regrette,
stoïciens.
C'est même pas c'est tellement peu d'actualité que personne, c'est sur l'agenda de personne, en fait. Non, en revanche, ce qu'il y a, c'est, il y a quand même des tensions entre une version assez libérale de l'Empire où le Sénat, notamment, joue un rôle important, donc l'Assemblée, en réalité, même si c'est le Sénat du peuple, c'est quand même le Sénat du peuple, du peuple romain, et une version beaucoup plus impériale où c'est l'Empire qui décide de tout. Donc il y a quand même ces tensions dans l'Empire.
Alors Sandrine Alexandre, le maître de Épictète quand il était donc esclave s'appelait, si je suis bien informée, Épaphrodite.
Oui, tout à fait.
On dit que lui aussi avait été un esclave et a donc été affranchi. Ce qui, au passage, si c'est vrai, c'est intéressant. C'est-à-dire que les affranchis prennent encore des esclaves pour eux-mêmes après, c'est ça ?
Oui. Là, effectivement, c'est un affranchi de Néron qui n'est pas n'importe quel affranchi quand même. Il occupe quand même de hautes fonctions auprès de Néron, des fonctions de conseil. Donc, c'est quelqu'un qui compte donc en tant qu'affranchi. Il a aussi le souci d'éduquer certains de ses esclaves pour s'entourer finalement de gens de lettres, en quelque sorte, en tout cas de gens savants.
Cette éducation, c'est préalable à l'acte de les affranchir ou c'est au contraire, on les affranchit pour qu'ils puissent avoir une vraie vie étudiante, si j'ose dire?
Non, pas forcément. En tant qu'ils pouvaient même rester esclaves et continuer, par exemple, à être le précepteur de tel ou tel enfant du maître. Donc, il n'y a pas de concomitance entre le fait d'être affranchi et le fait de travailler ensuite comme pédagogue, au contraire même, puisque en tant qu'affranchi, Épictète va pouvoir créer lui-même sa propre école. Mais le maître, donc Épaphrodite, a permis à Épictète d'aller étudier, d'aller suivre les leçons du stoïcien Musonius Rufus.
C'est un personnage important à l'époque.
C'est un personnage important, assez connu, et qui a enseigné à Épictète le stoïcisme et cette sorte de science de la vie, qu'est la pensée stoïcienne.
Est-ce que Épictète a parlé dans... Il y a quand même beaucoup de volumes, là, les entretiens,
oui,
même peut-être le manuel, de l'état d'esclave et de l'affranchissement et des choses de ce genre.
Alors, il parle effectivement de sa vie personnelle. Il raconte l'histoire d'une lampe qu'il possédait et qui aurait été volée. Et au lieu de se fâcher de ce vol, il dit « j'avais qu'à pas la laisser sur ma fenêtre ». Donc, c'est à moi, finalement, de prendre des précautions au lieu de m'affliger de ce qui m'arrive ensuite et de me fâcher. Donc il y a des petits, il y a beaucoup.
Et ça, ça parle de son moment où il était esclave ?
Non, ça parle de son affranchissement et de sa vie. Et finalement, de sa condition d'esclave, il en parle aussi, il parle de sa... Ça arrive assez souvent, hein, de Musonius, par exemple, qui faisait référence au mauvais traitement que Épictète subissait sous son maître Épaphrodite. Et c'était finalement la thématique d'une leçon, hein, en disant bah, est-ce que tu ne subis pas un certain nombre de contraintes ? Si, mais je sais m'en garder et je sais que ça n'est rien pour moi. Donc Musonius lui répond, mais alors du coup, j'ai pas de conseils à te donner, puisque tu sais toi-même t'occuper de toi-même.
Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste Gourina, c'est quand même assez rare d'avoir un philosophe qui traverse les siècles, qui a été esclave. Est-ce que ça compte d'une façon ou d'une autre dans sa pensée philosophique ?
Alors, c'est plus que rare, je pense que c'est à peu près le seul
cas. Il y en a sûrement, mais on ne connaît pas tout le monde, mais malheureusement, aujourd'hui.
Effectivement, il faut quand même se représenter qu'un esclave à Rome, c'est comme en Grèce d'ailleurs. Il y a en fait toutes les fonctions à l'intérieur de la maison. Et donc, ça inclut aussi non seulement les intendants, par exemple, donc c'est quelqu'un qui peut avoir une position très importante, et ça inclut les professeurs. Il y a des souvent les professeurs qui sont là pour effectivement enseigner aux enfants sont des esclaves qui font partie de la maisonnée. Donc c'est tout à fait normal de donner une éducation à un esclave, et donc envoyer Épictète suivre les cours de Musonius, ça n'est pas du tout, effectivement, dans la perspective, même si après, c'est ce qui se passe. Probablement pas, en tout cas, dans la perspective de la franchir, mais simplement parce que c'est bien d'avoir, comme c'est un esclave qui est là pour être éduqué, et il n'est pas là pour sa force physique ou pour faire des travaux physiques, il est là vraiment pour faire des travaux intellectuels.
Et donc c'est bien pas exceptionnel d'avoir un esclave
c'est absolument pas exceptionnel.
Éduqué, mais vous avez dit quand même, pour commencer, que c'est très exceptionnel.
C'est très exceptionnel que ça devienne un grand philosophe et qui traverse les siècles. Là, on n'a pas d'autres exemples, et c'est plus caractéristique du coup certainement de la société romaine que de la société grecque, où on n'a pas d'exemple comme ça en réalité d'anciens esclaves. Alors on a des exemples par exemple Cléante, dont vous avez un petit peu parlé à la première
parmi les stoïciens grecs anciens, les
premiers, lui c'était un ancien Athènes. C'était un pugiliste et un porteur d'eau. C'est comme ça qu'au départ il gagne sa vie pour aller suivre les cours de Zénon. La nuit, il va puiser de l'eau dans les jardins. Donc, il va puiser de l'eau, il les porte, donc il est payé pour ça. Et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc, tous les stoïciens ne sont pas... Enfin, il y en a qui ont des origines modestes, mais Épictète est le seul dont on sache qu'il a été esclave.
Alors, comme Carlos Lévy hier... Vous insistez, Jean-Baptiste Gourina, sur l'aspect romain, enfin le moment romain du stoïcisme. Vous venez de le dire, Épictète, il évolue dans une société romaine. Cela dit, il écrit en grec.
Il écrit en grec.
Il n'est pas romain au départ.
Non, il n'est pas. On n'a aucune idée, ma connaissance, des origines ethniques d'Épictète. Mais probablement, il n'est pas romain, effectivement. De toute façon, il n'est pas né. Il n'est pas né du tout à Rome. Hein. Il est né Il est né à Hiérapolis, donc c'est en Phrygie. Donc c'est vraiment les province orientale de l'Empire, donc ça ne donne pas d'indication exactement sur ses origines, mais c'est sûr que c'est pas un Romain comme Sénèque.
Alors il y a une fermeté dans la manière d'écrire, enfin c'est pas lui qui écrit, c'est ça qui est très compliqué, dans la manière dont on relate l'enseignement et les discussions d'Épictète, quelque chose de très ferme. Alors, la fermeté de la volonté, le besoin d'avoir des représentations claires du bien et du mal, et d'avoir la force de faire le tri, et d'avoir un comportement correspondant aux bonnes représentations, ça, on le trouvait déjà dans le stoïcisme grec, ancien, puis dans d'autres figures. Mais avec Épictète, il y a quelque chose, effectivement, que vous allez nous expliquer. Une force, quoi. Savoir choisir, examiner et faire. Écoutez tout de suite un extrait des entretiens d'Épictète sur cette fermeté. Vous verrez, c'est extrêmement éloquent.
Examine qui tu es. Un homme, en premier lieu. c'est-à-dire un être ne possédant rien qui soit supérieur à sa faculté de choix, qui lui subordonne tout le reste et la préserve elle-même de la servitude et de la soumission. Considère alors de quels êtres tu te distingues en vertu de la raison. Tu te distingues des bêtes sauvages, du bétail. En outre, tu es citoyen du monde et partie du monde, non pas une partie destinée à servir, mais une partie de premier rang. Car tu as une conscience réfléchie du gouvernement divin et tu es apte à raisonner sur ce qui en découle. Or, quel est le rôle d'un citoyen ? De n'avoir aucun avantage particulier, de ne rien décider comme s'il était un élément indépendant, mais d'agir comme le ferait la main ou le pied, s'il pouvait raisonner et avoir une conscience réfléchie de l'organisation naturelle. C'est-à-dire de n'avoir jamais ni propension ni désir sans les rapporter au tout. Puis, si tu es un membre du conseil d'une cité, rappelle-toi que tu es conseiller. Si tu es jeune, que tu es jeune. Si tu es vieux, que tu es vieux. Si tu es père, que tu es père. Car chacun de ces noms, quand on y réfléchit, dessine toujours les traits des actes qui lui sont appropriés.
Sandrine Alexandre, je voudrais vous laisser commenter ces lignes. Il y a une métaphore politique. Tu dois t'intégrer à la cité comme un organe par rapport au corps tout entier. Parle du citoyen, on est quand même sous l'Empire. C'est pas si simple, cette métaphore politique, me semble-t-il. Et j'aimerais que vous m'éclairiez sur ces répétitions. Si tu es vieux, tu es vieux. Si tu es père, tu es père. Enfin, cette façon de faire de la philosophie, quoi.
Oui, 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 tout à fait. Alors, ce texte s'inscrit dans, enfin, répond à une question. C'est, en gros, qu'est-ce que je dois faire? Comment savoir ce qu'on doit faire? C'est même le titre de l'entretien, de ce passage-là. Comment savoir ce qui me correspond et ce que je dois faire? Qu'est-ce qui convient de faire? Et là, on a deux aspects. Un premier aspect, sache que tu es un humain, un être humain. Et un autre aspect qui concerne davantage les fonctions, la question de l'âge, donc des choses qui sont beaucoup plus conjoncturelles et qu'on ne choisit pas. On n'a pas choisi d'être humain non plus, mais c'est un rôle qui est bien différent de toutes les fonctions auxquelles on peut prétendre. Et sur les fonctions d'humain, on en a en gros trois hein, dans ce texte-là. La première, c'est de savoir donner la priorité à ce qui est traduit ici comme faculté de choix, donc c'est la pro-aïressis, dont Jean-Baptiste reparlera peut-être tout à l'heure. Et il s'agit finalement d'être indépendant, de ne jamais rien faire contre son gré. Grâce à cette faculté, on peut finalement être absolument indépendant. Ensuite, on est un humain, donc on est raisonnable, et en ce sens, c'est une raison qui est vertueuse. Et enfin, on est un citoyen du monde, hein, donc l'expression apparaît ici, hein, un citoyen du monde, c'est-à-dire qu'on doit être capable de se considérer comme une partie d'un tout, et finalement subordonner les options qu'on prend à ce que les stoïciens vont appeler le destin.
Vous ne lisez pas là quelque chose d'un peu paradoxal ? Nous sommes indépendants, nous pouvons vouloir, etc., ce que vous venez de dire, et puis en même temps, nous ne devons nous penser que comme la main ou le pied d'un organisme complet. Donc en fait, nous sommes dépendants.
Oui, vous avez complètement raison, c'est un paradoxe, mais c'est-à-dire que dans un cas, on a une forme d'indépendance par rapport à soi-même et à tous les événements qui pourraient nous affecter. Donc c'est une indépendance finalement quelque part psychique, affective, une forme de liberté intérieure. Et l'autre aspect, c'est le fait de participer à une organisation qui nous dépasse, d'être un aspect d'une organisation qui nous dépasse, qu'ils appellent le destin et auquel on doit se soumettre. Par exemple, et c'est la suite, hein, on n'a pas choisi d'avoir l'âge qu'on a, on n'a pas choisi d'être dans telle configuration familiale, ou même si on l'a choisi, on doit en assumer les conséquences. Et donc finalement, on doit se comporter quelque part comme un acteur qui joue bien le rôle qui lui est confié. Le destin nous a confié le rôle du boiteux, c'est le cas d'Épictète. Le destin nous a confié le rôle du sénateur, le rôle de la personne qui est
jeune. C'est le destin, etc. Ça. Toujours le destin, même pour les affaires humaines.
Alors là, c'est là que je pense qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui comme on raisonnait à l'époque d'Épictète, dans la mesure, effectivement, où si on considère que c'est le destin, alors il faut se soumettre systématiquement.
C'est le risque.
C'est le risque.
Du propos d'Épictète.
Oui, tout à fait.
C'est une injonction à la soumission, parfois, si on le lit
trop vite. Si on le lit comme ça, oui, effectivement. Mais on peut aussi tout à fait considérer, notamment aujourd'hui, par exemple, que, je ne sais pas, si on, là, on parle du destin des... Je sais pas, une catastrophe climatique, par exemple, on pourrait dire que c'est la nature. Aujourd'hui, on sait très bien que nature et culture sont complètement liées et que, je sais pas, la crise climatique, elle est anthropique. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec... Épictète vit avant l'Anthropocène. Et je pense que ce point est absolument fondamental. Et Épictète lui-même, quand il s'agit d'événements politiques, ne prône pas une soumission absolue. Hein, par exemple, c'est peut-être un texte dont on va parler, mais... il ne s'agit pas d'obéir toujours en toutes circonstances. Et parfois même quand on obéit, c'est ce que suggérait Jean-Baptiste tout à l'heure, quand on doit aller à la cour pour réclamer quelque chose, c'est notre rôle d'aller réclamer, si on est responsable d'une cité, réclamer pour sa cité, mais on n'est pas obligé de le faire avec bassesse, on n'est pas obligé de le faire en se corrompant, et on peut garder sa droiture morale et ne pas accepter de pot de vin, par exemple, au risque de ne pas voir sa demande satisfaite et au risque soi-même d'être emprisonné ou pire.
Jean-Baptiste Gourina, cette injonction à la fois sur le mot « tu es libre, ta volonté dit Épictète peut ». Elle peut vouloir et en même temps l'idée qu'elle doit vouloir correspondre à un rôle dans un organisme complet, dans un cosmos, dans une société, donc en quelque sorte vouloir se soumettre aussi à un rôle, ce paradoxe là qui fait que Épictète peut être lu, vous venez de le dire, comme un auteur de la soumission. Qu'est-ce que vous avez à en dire?
Oui, alors d'abord peut-être que on pourrait rapprocher ce texte là de ce que Carlos Levy a dit hier sur les personnes, parce que en fait les différentes personae, les différentes personnes, et c'est persona, ça se traduit par rôle, par masque. En réalité, c'est le, à l'origine, c'est le masque, ou prosopon, c'est le masque que porte l'acteur dans la pièce de théâtre. Et donc là, on a en filigrane, on a cette théorie là derrière. Et donc ce qu'on voit, c'est que chacun de nous a plusieurs personnes ou plusieurs rôles. Donc il y en a un, c'est celui d'être humain. Bon, là, il y a un certain nombre de choses qui en découlent. Et l'idée, c'est le titre qui a été donné par Arien, c'est comment on peut découvrir les noms à partir, pardon, les devoirs, ce qu'il faut accomplir à partir des différents noms. Et donc, ce sont les noms de nos rôles. Donc, nous avons ce rôle d'être humain, nous avons ce rôle de citoyen du monde, nous avons ce rôle de nous sommes jeunes, nous sommes vieux, nous sommes pères. Ça, c'est des choses que nous choisissons pas. Il y a une chose, en revanche, il y a un rôle que probablement on choisit ici quand ils disent, puisque tu es membre des conseils, rappelle-toi que tu es conseiller, et il faut généraliser. On voit que dans le reste du texte, en fait, il généralise, c'est toutes les occupations, ce que nous choisissons dans la vie. Alors évidemment, quand on est esclave, on n'a pas le choix. Mais quand on est un citoyen libre, on a le choix de des occupations qu'on va avoir dans la vie. Donc là, on a quand même une marge où on peut décider de quelque chose. Donc là, c'est un rôle qui ne nous est pas imposé. C'est, parmi tous les rôles, c'est celui que nous avons choisi. Mais alors, cette histoire de soumission, celle que l'on a là dans le citoyen du monde, il faut le voir, on peut le voir de deux manières, c'est-à-dire l'idée que nous sommes les membres d'un organisme. On peut le voir effectivement comme du coup nous sommes une partie soumise, etc. Mais on peut le voir de façon beaucoup plus positive, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous devons le faire non pas de façon égoïste, mais en nous considérant comme la partie d'un tout, et donc nous devons agir non pas pour notre propre bien uniquement, mais pour le bien du tout. Et ça, c'est vraiment, alors vous en reparlerez certainement demain, parce que c'est vraiment l'aspect qui a été mis en évidence de façon encore plus claire par Marc Aurèle.
Qui a lu le manuel.
Ah oui, c'est son maître indirect, c'est-à-dire qu'il n'a pas, évidemment, Épictète est, il n'est pas mort quand Marc Aurèle naît, mais il n'a pas du tout la possibilité d'être son, il a d'autres maîtres, il a beaucoup, mais il a lu notamment les Épictètes. d'Épictète, on le sait, un de ses maîtres lui a donné son exemplaire des Entretiens d'Épictète. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, si c'est ses propres notes ou si c'est aussi le même texte que celui que nous avons, celui d'Arien. Mais il l'a lu, c'est son maître en quelque sorte, enfin au moins par écrit. Et donc c'est très important pour lui.
Alors peut-être pour compléter cette analyse de ces injonctions disant tu peux faire, tu peux vouloir, tu peux être ceci ou cela, mêlé à et librement, enfin par ta volonté, tu épouseras un rôle. C'est pas une liberté d'invention, mais c'est une liberté d'adaptation quand même à des rôles tout près. Pour creuser ce point, vous le dites très bien dans vos travaux, il faut passer au point suivant qui lui est lié, c'est que pour Épictète, il faut bien distinguer les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Je vous avoue que j'ignorais que c'était vraiment Épictète qui avait inventé cet aspect du stoïcisme. On croit souvent que c'est ça le stoïcisme, mais avant, paraît-il, c'était moins clair. Alors écoutons Épictète dans le manuel sur ce sujet et vous allez nous aider à comprendre.
Dans les choses, il y en a qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous jugements, impulsions, désirs, aversions, en un mot, tous nos actes. Ne dépendent pas de nous corps, possessions, réputations, postes importants, en un mot, tout ce qui n'est pas un de nos actes. Ce qui dépend de nous est naturellement libre, ne connaît ni obstacle, ni entrave. Ce qui ne dépend pas de nous est faible, servile, facilement contrarié et nous est étranger. Rappelle-toi donc que si jamais tu considères comme libre ce qui est naturellement servile, et comme tien ce qui t'est étranger, tu seras entravé, tu pleureras, tu seras tourmenté, tu accuseras Dieu et homme. Mais si c'est seulement ce qui est à toi que tu penses être à toi, et si tu considères comme étranger ce qui t'est effectivement étranger, nul ne te contraindra jamais, nul ne te fera obstacle, tu n'accuseras personne, tu ne t'en prendras à personne, tu ne feras rien contre ton gré, nul ne te fera de tort, tu n'auras pas d'ennemi car aucun tort ne pourra t'affecter. Si c'est effectivement d'aussi grand bien que tu veux obtenir, rappelle-toi qu'il ne faut pas s'y consacrer en ménageant ta peine, mais renoncer entièrement à certaines choses et en différer d'autres momentanément. Donc, dès qu'une représentation pénible se forme, prends soin de dire aussitôt « Tu es une représentation, et pas du tout ce que tu représentes. » Ensuite, passe-la au crible, juge-la d'après ces règles dont tu disposes, et surtout d'après cette première règle. Est-ce qu'elle se rapporte à des choses qui dépendent de nous, ou à des choses qui ne dépendent pas de nous ? Et si c'est à des choses qui ne dépendent pas de nous, est sous la main la réponse « Ce n'est rien pour moi. »
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons du stoïcisme cette semaine et de son idéal de maîtrise, de contrôle de soi. Et aujourd'hui, nous évoquons Épictète, qui est sans doute de tous les stoïciens, celui qui a, peut-être aussi avec Marc Aurèle dont nous parlerons demain, celui qui a vraiment accentué cette capacité que nous avons de choisir ce qui est bien et mal, d'écarter ce qui est mauvais pour nous, etc. Sandrine Alexandre, donc si je le suis bien, bon après il y a un certain ton hein, chez Épictète, certains aiment beaucoup qu'on leur parle sur ce ton, moi je suis obligée d'avouer que c'est pas ce que je préfère. Tu peux, tu feras comme ça, pas autrement, bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, tu peux, si tu as une représentation qui te dérange, eh bien tu peux t'en défaire, c'est facile, c'est possible. Je vous écoute, Sandrine Alexandre, pour le commentaire.
Oui, donc dans ce... Alors, on peut aussi le prendre... Donc là, effectivement, Épictète s'adresse à quelqu'un, mais on pourrait se le dire à soi-même. Donc c'est peut-être moins injonctif si on l'entendait comme ça. Et là, effectivement, dans ce texte, Épictète... transforme un petit peu ce qui, chez les premiers stoïciens, distinguait des biens, des maux, des indifférents préférables, des indifférents dépréférables. C'est des choses très claires quand on les lit et qu'on s'y habitue et qu'on est stoïcien, mais pour le commun des mortels, c'était peut-être pas très clair. Donc Épictète choisit finalement, parce qu'il s'adresse à des profanes, il s'adresse à tout le monde, enfin c'est ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, en disant que oui, il y a... tout un tas de gens qui viennent le voir, qui sont même peut-être pas des élèves. Donc des gens qui ont besoin de conseils et qui ne sont pas philosophes. Donc là, il va essayer de radicaliser un petit peu la distinction stoïcienne entre, et c'est, ça devient quelque chose de très clair, entre ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas. Et donc ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout.
C'est-à-dire c'est toutes les angoisses, excuse-moi, mais toutes les angoisses
qu'on
a.
C'est tout ce qui arrive. C'est tout ce qui arrive.
Tout ce qui peut arriver.
Tout ce qui arrive et peut arriver. Donc c'est ce qui arrive à mon corps, c'est ce qu'on dit de moi.
Et donc ça, on est capable de chasser toutes les inquiétudes.
Alors capable, ça c'est pas sûr. Mais en tout cas, on devrait pouvoir l'être. Donc il faut vraiment déjà se rappeler que toutes ces choses-là ne dépendent pas de nous. On n'a aucun pouvoir sur ces choses-là. Les gens peuvent parler de nous. Notre corps peut être blessé, peut tomber malade, etc. Tout ça, on n'y peut absolument rien.
Et tout ça, je cite, ce n'est rien pour moi.
Alors ça, c'est quand on est stoïcien.
Enfin, il le fait dire.
C'est ce à quoi on doit arriver. C'est ce à quoi on doit arriver. Et la seule chose qui dépend de moi, c'est la manière dont je vais considérer les choses. Et donc, c'est grâce à cette capacité à considérer les choses, à juger, à se représenter, que on est capable de dire ce n'est rien pour moi. En fait, le ce n'est rien pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de tout un processus de réflexion qui réussit à distinguer dans les réflexes de pensée que je peux avoir, qui réussit à distinguer l'événement. Ça arrive, et ce que je juge de cet événement. Et je devrais toujours pouvoir juger que, en tant qu'événement, ça ne dépend pas de moi.
Quelle fermeté, quelle certitude aussi.
Je n'ai pas dit qu'on y arrivait.
Oui, mais lui, il fixe le chemin. Et puis peut-être, en tout cas dans la retranscription par ses disciples, dans le manuel et dans les entretiens, il fixe le cap. Bon, vous savez bien, Jean-Baptiste Gourina, qu'aujourd'hui, il y a toute une discussion sur est-ce que la philosophie, ça peut être utilisé pour du développement personnel, pour du coaching, et ça arrive. Il y a tout un tas de philosophes qui disent que c'est insupportable, que la philosophie est plutôt là, d'ailleurs, pour nous inquiéter ou pour semer le trouble et pas pour nous donner des injonctions tel un coach. Il n'empêche qu'Épictète, par le style, au moins en tout cas tel qu'il est, visible dans les retranscriptions de son disciple, il y a un petit côté développement personnel. Vous ne trouvez pas, vous ?
Oui, il y a un petit côté, il y a effectivement un petit côté développement personnel. Alors tout à l'heure, vous nous interrogiez sur le fait qu'il a été esclave. Et quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser, quand il dit que rien ne dépend de moi sauf ma volonté, qu'il y a quelque chose qu'il a vraiment éprouvé. C'est-à-dire que quand il était esclave, on lui disait ce qu'il fallait faire. Il n'avait aucune autonomie, aucune liberté de choix. Et donc, il voyait aucune, dans ses actions en tout cas, et donc il voyait bien que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était, ou la seule chose dont il avait la maîtrise, c'était ses propres pensées, ses propres opinions. Et du coup, il y a quand même, je pense que le fait que c'est pas un hasard si c'est lui qui accentue vraiment cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, parce qu'il l'a éprouvé. Alors, il y avait déjà chez les anciens stoïciens beaucoup d'insistance sur la notion du destin. Et donc, effectivement, nous étions, tout ce qui nous arrivait était commandé ou dirigé par le destin, et nous avions peu d'autonomie par rapport à ça, sinon dans nos propres réactions. Mais je pense que c'est pas tout à fait un hasard si c'est vraiment accentué par Épictète. Alors ce côté coach, oui, il l'a, et surtout, il était beaucoup vu comme ça, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on venait chez lui pour avoir du conseil. Alors parfois, il est un peu, il dit qu'il est un peu décevant, c'est-à-dire que on s'attend à ce que, bon, alors je vais, comme je le disais tout à l'heure, je vais à Rome, j'ai un procès, qu'est-ce que je dois faire? Et en gros, venez le voir comme si on allait voir un avocat, et quelle est la bonne défense dans mon procès? Et en fait, il dit que c'est pas du tout ça, et il est décevant parce qu'il dit, oui, mais tout ça, bon, si tu dois être, en gros, il dit, si tu dois être condamné, tu seras condamné. Donc, voilà.
Donc,
il y a des choses qui...
à cela, oui, avant, oui, oui, et tu vas y arriver, tu vas l'accepter.
C'est ça,
bon.
C'est ça.
Alors, je trouve qu'à ce stade, c'est peut-être le bon moment pour injecter un peu d'esprit, comment dire, un peu d'esprit Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, si vous voulez.
C'est à droite. À droite. À droite. Serré à droite. À droite, à droite, à droite.
Serré à droite. Pardon, je suis désolé.
Non, ça va, tout va bien, mais quand je tourne le volant, il faut me laisser faire. Hein. Vous allez lutter, là, il faut pas lutter. Hein.
Je suis désolé, pardon.
Ça fait combien de temps exactement que vous avez pas conduit?
Je sais pas, ça va faire 10 ans. Mais même à l'époque, c'était comme ça, j'étais paralysée. Je pensais que j'aurais grandi un peu, que je serais plus à l'aise. Mais pas du tout, c'est comme avant. Je suis paralysée, je suis terrifiée.
Oh, pas de quoi être terrifiée.
Mais si, j'ai tout le temps l'impression que je vais mourir ou que je vais tuer des gens. C'est un fantasme.
Oui, je comprends bien. Un fantasme, mais bon, justement, c'est un fantasme. On ne peut pas se laisser dominer comme ça tout le temps. Il faut se maîtriser, on n'est pas des enfants. On doit être capable de se maîtriser.
Ah oui. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Des séances d'acupuncture, peut-être parallèlement, ça peut me faire du bien. Ça peut me détendre un peu.
C'était un extrait de Au bout du compte, film d'Agnès Jaoui. Sandrine Alexandre Bacri, là, en tout cas son personnage, qui dit « mais tu peux te maîtriser, ce ne sont que des fantasmes, et ça doit n'être rien pour toi, ces fantasmes angoissants. » Si c'est du Épictète, c'est un peu sévère pour Épictète, non ?
Oui, c'est sévère. Et en même temps, là, c'est pas face à un événement, en fait, qu'elle devrait se maîtriser. C'est pas quelque chose qui arrive et qu'elle devrait surmonter de façon stoïque, du coup, pourrait-on dire.
Mais, pour toi, le propos tenu par le prof de conduite est un peu stoïcien, en tout cas stoïque.
Oui, là, il est en train mais on est vraiment, du coup, dans la base de la base de l'éducation stoïcienne. Ce serait vraiment essaye de mettre un peu d'ordre dans tes représentations pour pouvoir agir de façon relativement ferme et efficace. Donc là, je ne sais pas si Bacri représenterait le philosophe stoïcien. Là. Il est plutôt en train de dire mets un peu de calme dans ton âme, tranquillise-toi.
Bah ça, on est chez les modernes, quoi. Freud a écrit l'imaginaire et son côté impossible à maîtriser a été travaillé par tellement de monde, le surréalisme, la littérature. Donc, d'une certaine façon, Jean-Baptiste Gourina, il y a quelque chose chez Épictète, bon, qui séduit aujourd'hui, il y a des vrais lecteurs, mais qui est en même temps, et peut-être est-ce pour cela que ça séduit, un peu décalé par rapport à notre manière moderne de penser l'individu, ses angoisses et son immaîtrisable.
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, justement, les stoïciens réagissent contre toute une tendance psychologisante qui est de dire que les émotions, les passions, viennent de choses de parties rationnelles de l'âme et que ça n'est pas que pour cette raison, ça n'est pas maîtrisable. C'est presque comme toute chose étant égale par ailleurs. C'est presque comme s'ils avaient défendu un équivalent de l'inconscient. Et pour les stoïciens, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas les émotions ne viennent pas d'une partie rationnelle de l'âme, ne viennent pas du corps en réalité. C'est juste des mauvais jugements sur les choses, qui fait que nous ressentons des émotions qui sont complètement dévoyées parce qu'elles sont complètement disproportionnées par rapport à la réalité. Et c'est un peu ce que dit malgré tout la Bacri à Jaoui. Oui, c'est un fantasme. Et donc il faut vous calmer. Et on a tout à fait cette analyse chez les stoïciens en général et en particulier chez Épictète. C'est bon, alors il faut objectiver les choses, il faut voir les choses telles qu'elles sont, et il faut pas rajouter par-dessus l'idée que c'est un malheur et donc se laisser déborder par son émotion. Mais ça ne veut pas dire pour autant, et je crois qu'il faut ne pas avoir d'émotion, ça ne veut pas dire d'autre part que par exemple la souffrance physique ou même la souffrance morale n'existe pas, mais qu'il faut arriver à la maîtriser. Et on a alors il y a cette anecdote qui est racontée par Épictète sur un père de famille qui vient le voir et pour lui dire voilà, en fait je suis parti de chez moi parce que ma fille est malade, je peux pas supporter, ça me fait trop mal, et donc tant qu'elle est pas guérie, je peux pas rester auprès d'elle.
Alors merci d'aborder cet exemple. Oui. Je ne vous cache pas qu'il me laisse complètement perplexe.
Oui.
Ça m'intéresse que vous m'éclairiez. Donc, c'est un curieux exemple. Votre enfant souffre et donc un père de famille ne supporte pas de voir cet enfant souffrir, qui est pourtant clairement besoin de son papa, et donc s'en va. Et là, on se dit, peut-être pas besoin d'être Épictète pour dire que c'était pas la bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est une autre. Là, c'est quand même une autre époque. Hein, c'est quand même une autre civilisation. Donc, c'est très genré en plus parce que vous avez la maman et la nourrice qui elles restent. parce que c'est normal que la maman et la nourrice s'occupent de la petite fille qui est malade, et le père, lui, s'éloigne et se consacre entièrement à sa souffrance. Donc il y a quand même cette idée chez Épictète que bon, bah, c'est pas, non, non, le père doit aussi s'occuper de sa fille, donc tu dois rester, tu dois pas simplement te complaire dans ton émotion. Et c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que cette espèce de tout ce discours sur la maîtrise des émotions, c'est vraiment ne pas se complaire dans son émotion au point que ça nous empêche d'agir. Et Épictète, il distingue très bien justement tout ce qui est de l'ordre de l'émotif, qui relève effectivement d'une partie de l'âme ou d'une action de l'âme qu'il appelle le désir ou l'aversion, et ce qui relève de ce qu'il appelle l'impulsion, qui est ce qui nous permet d'agir. J'ai une impulsion, je peux avoir une impulsion simplement à boire de l'eau, mais je peux avoir une impulsion, c'est ce qu'on avait dans le texte sur comment déterminer nos devoirs à partir des noms ou des personnes. Donc je suis un frère, je dois accomplir mes devoirs de frère. Et là, je suis un père, je dois accomplir mon devoir de père, donc je dois rester auprès de ma fille et non pas me laisser dominer par l'émotion et me complaire simplement dans une émotion qui est paralysante.
Qu'en pensez-vous ?
C'est ça l'idée, ces passions sont paralysantes et qu'elles empêchent d'agir correctement en réalité.
Qu'en pensez-vous, Sandrine Alexandre ? Cet exemple est sans doute difficile pour les modernes que nous sommes, parce qu'on a quand même du mal à imaginer que spontanément que votre enfant a un accident ou une souffrance, vous partiez, homme ou femme d'ailleurs, papa, maman, qui que ce soit. Mais la manière dont il introduit le « tu dois », et là tu dois obéir à ton rôle, a-t-il encore quelque chose d'universellement important, décisif? Épictète est-il un penseur décisif, malgré les petites limites que je vous remercie d'avoir bien voulu reconnaître?
Oui, mais je pense que le rapprochement, le fait que Jean-Baptiste ait évoqué cet exemple après le cas de Bakri, enfin le film avec Bakri, oui, ça me semble tout à fait lié en fait. C'est vraiment cette idée de, il va falloir faire un travail sur ces représentations pour pouvoir bien agir, mais bien agir et pour soi et pour les autres. Donc oui, c'est un penseur décisif, et ce qu'on disait au début de l'émission sur la question, donc il y a le destin, une forme de d'acceptation quelque part de ses rôles, et le pendant qui est la réciproque en fait, c'est ce que disait aussi Jean-Baptiste sur la question de l'organisation du tout. Ça fait échapper, à mon avis, le stoïcisme à des réappropriations très sommaires, des appropriations en fait très sommaires par le développement personnel. Là, il est vraiment question de penser à plus que soi, et de se dire que le rôle que l'on a, c'est pas simplement ma petite personne qui doit tirer le meilleur d'elle-même et qui doit être performante. C'est vraiment s'inscrire dans un tout qui comprend aussi les non-humains et qui fait que le stoïcisme peut se trouver relu aujourd'hui dans de manière tout à fait décisive et à l'encontre en fait des lectures qui en sont faites par le développement. Par le développement personnel, à mon avis.
Mmh. Alors, il y a un passage aussi, ça, je trouve, pour le coup, très intéressant. C'est un moment où le « tu dois », que Épictète adresse sans arrêt à son élève ou à son lecteur, pour ceux qui l'ont retranscrit, le « tu dois » est précisément, non pas « tu dois obéir au rôle et à la majorité qui a défini le rôle, tu dois te fondre dans les rôles habituels et conventionnels, mais au contraire, tu ne dois pas, il n'y a aucune raison que tu te conformes à la majorité des gens. » Et il prend là l'exemple d'un certain Florus qui aurait eu l'occasion d'assister à l'incendie de Rome et on lui propose de descendre auprès de Néron pour voir le spectacle. C'est ce qui renvoie au fait que Néron aurait un peu joui de ce spectacle étonnant. Et là, il dit à Florus, non, tu n'as pas besoin de te conformer à la majorité des gens, tu peux ne pas descendre, tu ne descends pas. Jean-Baptiste Gourina.
Oui, alors, je vois que vous, du coup, ça fait la liaison, effectivement, avec l'histoire de l'incendie de Rome par Néron, que vous avez évoqué hier à propos de Sénèque.
Absolument. Donc, alors, je me demande s'il n'y a pas une référence à Sénèque.
Mais... oui, je sais pas. Je pense pas que ce soit direct, mais on est vraiment dans le, de toute façon, toutes ces histoires de résistance à la volonté impériale, on est effectivement dans le contexte de Sénèque. On est deux générations avant, et on est déjà dans tous ces stoïciens qui sont des opposants déclarés à l'Empire. Donc il faut bien voir que le fait d'être stoïcien et le fait d'être de vouloir se soumettre, comme on le disait tout à l'heure, il y a le rôle d'homme, il y a le rôle de citoyen du monde, et donc ça nous impose un certain nombre de choses qui sont pas forcément la soumission au pouvoir en place. C'est-à-dire que il s'agit pas effectivement d'aller sur scène pour complaire à Néron, pour complaire à l'empereur. Il s'agit d'accomplir ce que nous devons de façon tout à fait conforme à ce rôle d'être humain et ce rôle de citoyen du monde.
Résistant, si j'ose dire, alors que tout à l'heure nous avions évoqué le côté un peu soumission. Donc
oui,
ça, il faut
alors,
absolument nuancer ce que nous avions
non,
dit tout à l'heure.
Non, mais alors c'est pas vraiment de la soumission. C'est l'idée, c'est de toute façon, eh bien, si l'empereur
résistance.
Et Épictète le dit, si l'empereur veut me briser, il me brisera.
Ah, ouais.
Mais et donc ça, c'est un fait. C'est-à-dire que être brisé par l'empereur, ça ne dépend pas de moi. C'est lui qui le décide. Et si l'empereur veut aller enlever un opposant dans un pays étranger, il le fera. Personne ne pourra lui résister, n'est-ce pas ?
Merci.
Mais
voilà.
Mais en revanche, le fait que ma réaction à moi, elle est tout à fait. Il ne peut pas la soumettre. Et il y a une phrase d'Épictète à un moment où il dit ma liberté de choix, donc ce qu'on appelle cette proairesis, Zeus lui-même, c'est-à-dire Dieu, ne peut pas la soumettre. Et donc là, je suis donc même s'il y a Dieu qui m'oblige à quelque chose, ben en fait, je reste libre de mes actions.
Toute petite minute pour vous, c'est Sandrine Alexandre, voulez-vous commenter cette histoire de si Néron me demande de voir l'incendie ?
Oui, bah sur
eh ben je n'irai pas.
Bah sur accepter n'est pas forcément se soumettre ici. Mmh. Et là, j'ai l'impression que Agrippinus, il accepte complètement son rôle et il accepte d'être à la hauteur de son rôle de sénateur, c'est-à-dire ne pas se soumettre justement aux menaces de Néron et ne pas descendre. Donc là, il est parfaitement dans son rôle. Donc jouer son rôle, c'est aussi, si on veut, toute proportion gardée, c'est aussi la question des corps intermédiaires. C'est aussi le fait d'être ferme à son poste et de résister à des abus de pouvoir.
I've had choices. Since the day that I was born, there were voices that told me right from wrong. If I had listened, I wouldn't be here today, living, dying with the choices I've made. I was tempted at an early age. I found that I liked drinking. No, I never turned it down. There were loved ones, but I chased them all away. Now I'm living and dying with the choices I've made. I heard voices that told me right from wrong. If I had listened, oh, I wouldn't be here today, living and dying with the choices I made.
Choices, choix par Leonard Cohen. C'est dans les années qui précèdent sa mort en 2016. Et c'est une chanson sur les choix, mais aussi sur les regrets. Hein. Si j'avais écouté, je ne serais pas là aujourd'hui, chante Leonard Cohen. En tout cas, peut-être un lien avec Épictète, nous le souhaitons. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gourina, Sandrine Alexandre. Vos travaux sont précisés sur notre site. Et voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, elle a pour thème le corruptible et l'incorruptible. C'est le pourquoi du comment.
Comment peut-on éviter la dégradation? Il y a peut-être dans nos vies et en réalité dans chaque être vivant, de manière absolument constitutive, un risque intérieur qui consiste à, avec le temps, avec la dépense d'énergie, avec le vieillissement, avec l'entropie, oui, avec le temps, tout simplement, un risque intérieur de dégradation. Les êtres vivants sont soumis à un processus qui n'est pas seulement linéaire, en quelque sorte, ni cyclique d'ailleurs, mais un processus de montée et de redescente. Ils croissent et ils décroissent. Ils grandissent et ils diminuent. Ainsi, les Grecs parlaient-ils de génération et de corruption. Les êtres vivants commencent à croître vers une forme qui, pour les Grecs, s'approchait le plus possible de la perfection, de la finalité. Peut-être était-ce une illusion finaliste de dire qu'il y a une forme absolue, mais enfin, il y a une sorte de croissance qui s'arrête à un moment et qui donne lieu à une sorte de décroissance. Et de ce point de vue, tout se dégrade dans l'univers. L'univers lui-même, en effet, dépense de l'énergie et peut être en train de croître et en train de décroître. Les vivants n'échapperont pas à la mort par simple dégradation temporelle, par perte d'énergie, par ce qu'on appelle aussi un travail. Mais la notion de dégradation et de corruption doit nous alerter aussi. Il y a peut-être quand même des dégradations que nous pouvons éviter. Il y a des corruptions qui ne sont pas des faits biologiques, mais qui sont des faits sociaux, moraux et politiques. Le terme même de corruption dans nos sociétés doit être pris en ce sens, au sens où il s'agit d'abord d'identifier les fragilités intérieures d'une société morale et politique pour pouvoir s'y opposer. Oui, il y a une corruptibilité des individus qui suppose en effet une tension intérieure, et soyons précis, la corruption s'appuie sur la contradiction chez les êtres humains entre l'intérêt individuel, toujours tenté de se battre pour lui-même contre les autres, et l'intérêt général, qui au contraire est le pilier d'une société commune qui se bat pour le bien commun et pour les choses publiques. Ainsi, il y a une contradiction entre l'intérêt privé et l'intérêt général, est au cœur de la corruptibilité de nos sociétés. Il y a alors différentes représentations de l'humain. Certains vont dire, cette corruption, elle est inévitable, c'est la compétition des êtres humains individuels, il faut la laisser se faire, libre compétition. C'est la réponse à la corruptibilité. Peut-être, d'ailleurs, faut-il un espace pour les intérêts individuels d'une manière constitutive. Si vous cherchez l'incorruptibilité absolue, celle-là, il faut la défendre. Mais disons, à réprimer tout le temps les intérêts individuels, vous allez produire une corruptibilité cachée comme dans tous les systèmes totalitaires. Il faut donc un espace pour l'intérêt privé, un espace pour l'intérêt général et une étanchéité entre les deux. Sinon, les régimes vont être soumis à ces sources intérieures de corruption, exactement comme les êtres vivants sont soumis à leur dégradation. Mais la dégradation morale et politique n'est pas inéluctable. Elle peut s'appuyer non seulement sur des forces morales, toujours fragiles, mais qui se transmettent par l'éducation et par l'histoire, mais surtout sur des règles politiques, sur des lois qui empêchent au moins dans ce domaine à la corruptibilité d'avoir un libre cours. Il faut donc assumer les négativités des êtres vivants, des êtres humains, des sociétés elles-mêmes même dans l'histoire, mais contre certaines on peut lutter. Non, peut-être que la dégradation du vivant est inéluctable, mais la corruption de nos sociétés, on peut l'affronter.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Colin Gruel avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Axel Dubois, Carla Michel, Nassim Elkabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.